VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mercredi 8 avril 2015. À la une ce soir.
En Centrafrique, le ministre du Tourisme, Romaric Vomitiadé, est condamné à 2 ans de prison ferme pour le viol d'une mineure de 16 ans.
République démocratique du Congo, réaction à l'arrestation hier à Goma de 4 membres du mouvement citoyen congolais Lucha.
La liberté d'expression est totalement réprimée alors que tous ensemble, aux médias et partout d'ailleurs, nous sommes prêts à dire que nous sommes un État démocratique.
On écoutera le militant congolais Duvin Kombi.
La France déclassifie les archives de la présidence sur la période du génocide au Rwanda. Nous aurons la réaction de Kigali.
Ici, aux États-Unis, un jury du Massachusetts a rendu un verdict de culpabilité contre Zohar Tsarnaev, l'unique accusé dans le double attentat du 15 avril 2013 à Boston.
Et Washington accélère des livraisons d'armes à ses alliés du Golfe en appui à la campagne menée par l'Arabie Saoudite contre les Houthis au Yémen.
Nous aurons également nos segments sur les sports et l'économie, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons en Centrafrique où le tribunal correctionnel de Bangui a condamné ce matin à 2 ans de prison ferme le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat pour le viol d'une mineure de 16 ans le 25 janvier dernier. Le crime a été perpétré lors d'une mission à Yaloké dans l'ouest du pays. Romaric Vomitiadé écope par ailleurs de 300 000 francs CFA d'amende et de 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Félix Yepassi Zembrou a recueilli la réaction de l'un de ses avocats, maître Jean-Louis Opalenia.
Je constate que c'est une parodie de procès. La décision ne correspond même pas aux faits. On ne peut pas tirer argument de ce que des habits ont été exhibés à l'audience pour condamner quelqu'un. En plus, un ministre encore en fonction par le tribunal de grande instance a une condamnation ferme. Le juge disqualifie les infractions de pédophilie et d'atteinte à la liberté, à la promotion et au développement de la jeune fille, mais ne dit pas quelle est l'infraction envers laquelle il les réqualifie. Il s'arrête seulement à disqualifier et il va dans l'attentat à la pudeur consommée avec violence, alors qu'il n'y a pas eu de consommation.
Maître, selon vous, les chefs d'accusation retenus dans cette affaire ne sont donc pas avérés?
Non, il s'agit d'un complot dont les sources sont diverses. Il y a d'abord le camp duquel il est sorti pour être ministre. Il y a en plus son département ministériel. Il y a enfin ses collègues membres du gouvernement qui ne veulent plus de lui parce qu'il est tombé sur un dossier compromettant à l'égard d'un ministre conseiller à la présidence.
Maître Jean-Louis Opalenia, avocat de Romaric Vomitiadé, condamné, rappelons-le, à 2 ans de prison pour viol sur mineur.
Centrafrique toujours, le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, Michel Amine, a été arrêté pour possession de faux documents de voyage hier à l'aéroport de Bangui. En possession de 3 passeports centrafricains, Cameroun et Afghan, il a été remis au parquet.
Le Rwanda s'est félicité de la déclassification par Paris des archives de la présidence française sur le Rwanda de 1990 à 1995, non sans rester toutefois prudent sur la portée de la décision. Eddie Sango.
La mesure prise mardi pourrait permettre un éclairage sur le rôle de la France au Rwanda pendant les génocides. Bien que certaines critiques avancent que les archives de la présidence française ne sont pas les plus sensibles, le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a salué la décision de Paris tout en soulignant que le Rwanda s'attend à une déclassification totale, rapporte l'AFP. L'ancien secrétaire général de la Commission nationale de la lutte contre les génocides, Jean de Dieu Moussio, aujourd'hui président de la commission Moussio, ayant publié en 2008 un rapport sur le rôle de la France, a abondé dans le même sens. Les rapports Moussio accusaient la France d'avoir participé activement à la préparation du génocide et ses soldats d'avoir pris part à des massacres et à des viols. Des documents déclassifiés par l'Élysée vont être mis à la disposition des associations de la société civile et Paris a promis que les archives parlementaires et des ministères des Affaires étrangères et de la Défense seront également déclassifiés, mais à des dates inconnues à ce jour.
À N'Djamena, les anciennes du primaire et secondaire ont déclenché une grève ce mardi pour dénoncer les retards de paiement de leur salaire. Nathalie Barge.
Les écoles et lycées publics sont fermés depuis mardi matin, a déclaré Blaise Djimtoïdé, secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, cité par l'AFP. Monsieur Jim Toïdé précise que les enseignants ont systématiquement des retards de paiement de leur salaire de 10 à 15 jours depuis 8 mois. Nous demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour verser nos salaires à temps, a déclaré le syndicaliste, ajoutant que la grève deviendra automatique si les salaires du mois dernier ne sont pas réglés cette semaine. La société civile et l'opposition demandent régulièrement au gouvernement de consacrer les bénéfices pétroliers à l'amélioration des conditions de vie de la population, encore majoritairement très pauvre au Tchad, un pays figurant parmi les 10 derniers au monde dans le classement de l'indice de développement humain de l'ONU. Le Tchad enregistre actuellement une baisse de ses recettes à cause de la chute des cours du brut. N'Djamena a investi l'argent des revenus pétroliers, surtout pour la modernisation de l'armée, le réseau routier et la construction de bâtiments publics, sans pour autant améliorer la qualité de vie des chômeurs et travailleurs tchadiens qui sont nombreux à vivre dans le plus grand dénuement.
Au Burkina Faso, la grève générale contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou. D'après l'AFP, la plupart des entreprises et services publics sont restés ouverts. Seule l'université de Ouagadougou et les établissements scolaires sont restés fermés. Les syndicats et les associations de la société civile exigent la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, ainsi qu'une augmentation des salaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un jury du Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis, a rendu ce mercredi un verdict de culpabilité contre Zohar Tsarnaev, l'unique accusé dans le double attentat du 15 avril 2013 à Boston. Ces explosions lors du fameux marathon de Boston avaient fait 3 morts et plus de 260 blessés. Le jeune Tchétchène, devenu citoyen américain, a été trouvé coupable sous 29 chefs d'accusation, dont...
Sur tous les 30 chefs d'accusation, Morgan.
Ah, pardon. Et dont 17 prévoient la condamnation à mort. La peine sera déterminée dans une autre phase du procès. Il s'agira pour la défense de tout faire maintenant pour convaincre la cour d'épargner la vie de Tsarnaev et lui donner la prison à vie.
Au 14e jour de l'intervention militaire saoudienne au Yémen, Washington accélère des livraisons d'armes à ses alliés du Golfe. De son côté, Téhéran vient d'envoyer 2 de ses vaisseaux de guerre dans les eaux du Yémen, Salwa Jafari.
Le destroyer, aux couleurs de la révolution iranienne, accompagné d'un autre navire, sont déjà en route vers les eaux du Yémen. Une manœuvre que Téhéran dit faisant partie de ses efforts anti-piratage pour protéger ses routes navales. Pour beaucoup, ce mouvement est loin d'être innocent. Il est même très dangereux dans ce contexte de guerre, surtout que les États-Unis viennent de leur côté d'accélérer les livraisons d'armes à leurs alliés du Golfe. Écoutez le chef du Pentagone, Ashton Carter, lors d'une conférence de presse.
Nous leur procurons des informations de surveillance, de reconnaissance, pour les aider dans leur campagne, de l'assistance logistique. Nous allons les réapprovisionner en équipement et en munitions.
Ainsi que du matériel médical. Il faut dire que la situation sur le terrain est catastrophique selon les Nations Unies et autres organisations non gouvernementales. 11 personnes au moins ont été tuées aujourd'hui à Aden, la grande ville portuaire du Sud. Les affrontements ont eu lieu entre rebelles chiites et partisans du président Abdelrabo Mansour Hadi, soutenus par l'Arabie. Des cadavres étaient même visibles dans les rues. La population civile est piégée et les aides humanitaires ont du mal à être acheminées. Le comité international de la Croix-Rouge a lancé un appel à une trêve humanitaire de 24 heures pour pouvoir apporter un soutien médical à la population.
L'Union européenne a de nouveau approuvé des sanctions contre une banque et 32 sociétés d'expédition iraniennes, environ 3 mois après le rejet de telles mesures par un tribunal européen. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'accord politique sur le nucléaire iranien, accord négocié par Téhéran avec l'Allemagne et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne s'appuie sur des bases légales différentes pour la réimposition des sanctions sanctions contre la banque Tejarat et les 32 entreprises en question, accusées d'offrir un appui significatif au gouvernement iranien en violation des dispositions internationales.
Et la Grèce prend position contre les sanctions occidentales imposées à la Russie en rapport avec le rôle de Moscou dans le conflit ukrainien. Le Premier ministre Alexis Tsipras s'est ainsi prononcé à côté de Vladimir Poutine aujourd'hui à Moscou.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
La Suisse octroie un appui d'environ 9 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour la mise en œuvre de deux programmes dans le secteur agricole, annonce le ministère en charge de l'agriculture, cité par l'agence APA. Il s'agit du programme de valorisation du potentiel agropastoral dans l'Est, VALPAP, d'un coût global de 3,5 milliards de francs CFA et du programme de modernisation des exploitations familiales, le PAMEFA, à hauteur de 5,4 milliards de francs CFA. La Suisse fait ainsi de la lutte contre l'insécurité alimentaire l'un des objectifs majeurs de sa coopération avec le Burkina Faso. La foire Forum Carnaval de Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, a été ouverte mardi. Durant 5 jours, l'événement sera marqué notamment par une foire commerciale, un concours de beauté appelé Miss Carnaval, des prestations artistiques, un forum de dirigeants des villes secondaires des pays de l'UEMOA et un bal masqué. Initié dans les années 60, le Carnaval de Bouaké avait connu une certaine renommée dans la sous-région ouest-africaine avant d'être interrompu il y a 15 ans. Et plusieurs centaines de travailleurs d'une des deux mines d'Areva dans le nord du Niger ont entamé mardi une grève de 3 jours pour réclamer le versement d'un reliquat de prime, a-t-on appris de sources syndicales. À Niamey, la direction d'Areva a confirmé la grève en précisant que la prime en question portait sur l'année 2015. Cette première journée de grève a été bien suivie au-delà des 80%, s'est félicité le syndicat. Seuls certains travailleurs ont suivi la grève, affirme pour sa part Areva.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger.
Et les sports, c'est avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
L'information du jour, la CAN 2017, c'est où?
Ouais, ce sera au Gabon, hein, le pays pétrolier d'Afrique centrale qui va accueillir donc cette édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon l'a emporté face à deux grands rivaux, l'Algérie et le Ghana, pour organiser cette 31e CAN. Cette édition devait initialement, il faut le rappeler, se disputer en Libye avant que ce pays en proie à une guerre civile ne se désiste. Le Gabon avait déjà organisé la CAN en 2012 avec la Guinée équatoriale, sa voisine, accueillant notamment la finale sur son sol, et c'était à Libreville.
Alors Morgane et Bagassi, peut-être qu'il faudrait présenter le monde aujourd'hui de Libreville à cette époque. Autre info concernant la CAN, tirage au sort des groupes.
Voilà, parmi les 13 groupes, donc, on peut noter hein, deux sont particulièrement relevés. Il s'agit du groupe G, Nigeria, Égypte, Tanzanie, Tchad. Dans le groupe M, on retrouve le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Gambie et l'île Maurice. Ce sont les groupes les plus corsés. Hein. Et on peut aussi noter le groupe D, où se trouvent le Burkina Faso, l'Ouganda, le Botswana et les Comores. Et pour Gernot Rohr, l'entraîneur des étalons du Burkina Faso, c'est un groupe assez relevé.
C'est un groupe qui est relevé parce que ce soit le Botswana ou l'Ouganda, c'est deux très bonnes équipes et les Comores ne sont pas à sous-estimer. Donc on va vraiment bien se préparer pour finir premier de ce groupe, ça ne sera pas facile. Et surtout les matchs au Botswana et en Ouganda sont des matchs redoutables. Donc il faudra être prêt.
Voilà, il faudra être prêt, parole du franco-allemand Gernot Rohr, sélectionneur des étalons du Burkina Faso.
Alors, quelles sont les dates pour la première journée des qualifications?
Eh bien, ce sera le 12, 13 et 14 juin prochain. Et la sixième et dernière journée aura lieu les 2, 3 et 4 septembre 2016.
Vous retrouverez tous les autres groupes et l'actualité de la CAN sur voaafrique.com. En basket professionnel ici aux États-Unis.
Alors, il faut noter qu'Atlanta, leader de la conférence Est, s'est imposé face à Phoenix 96 à 64. 69. Miami a battu Charlotte 105-100. Défaite des Golden State Warriors à la Nouvelle-Orléans 100-103. Et San Antonio, votre équipe Chirubin, n'a pas fait de détails contre Oklahoma City 113-88.
Et rappelons l'adresse pour toutes les informations sur la CAN 2017.
C'est bien sûr voafrique.com. J'ai cru qu'on allait faire ça en cœur.
Merci Bagassikoura pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et chez Romain Dorcy, il est Morgane Guiriac en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, chez Rubin, la République démocratique du Congo, plus précisément l'est de la RDC.
Où quatre membres du mouvement citoyen congolais Lucha ont été arrêtés hier. C'était à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, alors qu'ils manifestaient en faveur de la libération d'autres militants détenus à Kinshasa. D'autres personnes se sont rendues aux forces de l'ordre ce matin pour protester contre ces arrestations qu'elles qualifient d'arbitraires. Duvin Kombi est un des militants de Lucha à Goma.
Depuis 7 heures, nous étions réunis devant le bureau de la police qui venait à peine d'arrêter nos amis à Dampierre. Ce qu'on demandait, c'était que si on les libère ou si on ne veut pas les libérer, qu'on nous prenne aussi. Nous étions venus là. Parce que nous étions censés être complices avec eux, qui nous trouvaient de mal à les reprocher. Tous ceux qui nous connaissent savent bien comment est-ce que nous manifestons, nous faisons dans toute la légalité.
Et déjà, il y a plusieurs militants qui se sont rendus aux forces de police.
Exactement. Nous sommes venus ensemble là parce que tout ce qu'ils reprochent à ses amis, qu'ils ont arrêté, nous tous ensemble, nous sommes d'accord avec eux. D'arrêter quatre parmi nous et de nous laisser à l'extérieur alors qu'ensemble nous avons organisé ça. Donc nous étions venus pour qu'ils nous arrêtent de même. Mais ils nous ont demandé de quitter. Nous sommes entrés dans la clôture, dans la dite enclos où il y a les cachots. Mais ils nous ont demandé de quitter parce qu'ils voulaient transférer le dossier à des autorités compétentes selon eux. Mais nous continuons toujours à faire pression.
Alors, l'un des principaux militants, Fred Boma, est détenu à Kinshasa depuis son arrestation le 15 mars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles actions vous avez mises en place pour obtenir sa libération?
Même l'action civile du coup de pied qui était en train de se faire, c'est parmi les actions que nous avons mises en place pour que cette question reste à la une et que les autorités entendent par là que nous sommes indignés de cette situation qui n'est pas du tout normale dans un État démocratique. À partir de 17h10 jusqu'à 17h05, la population est entrée de s'y souhaiter sur l'étendue de la ville de Goma, parce que c'est là qu'on est plus cloisonné, même si l'appel va au-delà de ce que nous faisons. Mais plus pratiquement, c'est dans la ville de Goma que cela est entré de se faire. Et nous avons vu que l'action prendra un minimum de 12 jours. Nous ne trouverons pas normal. Ils vivent dans un état où la liberté d'expression est totalement réprimée, alors que tous ensemble, aux médias et partout ailleurs, nous sommes prêts à dire que nous sommes un état démocratique. C'est très indignant et pour moi, c'était un appel à tous ceux qui sont censés garantir la liberté des uns et des autres être d'écouter cet appel que nous sommes en train de lancer.
Duvin Kombi, activiste du mouvement citoyen Lucha en République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Claire Morin-Gibourg.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Mettons maintenant le cap sur le Niger.
Pour parler du report de la mise en exploitation de la mine d'uranium d'Imouragren par les géants français du nucléaire, Areva. Près de 1000 travailleurs ont donc été licenciés. Un plan social est en discussion actuellement pour ces travailleurs. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Les travailleurs licenciés du site d'Imouraren n'ont pas du tout apprécié la récente déclaration du président de la République Issoufou Mahamadou sur les ondes de la VOA Afrique par rapport à leur situation.
Un des points noirs concernant l'emploi concerne évidemment l'uranium, le site d'Imouraren qui est fermé par le géant français Areva. Les employés sur place, très peu, resteront embauchés par le géant français. Prévoyez-vous des mesures d'accompagnement pour ces employés?
Oui, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues. Il y a des indemnités assez confortables qui sont données à ceux qui vont devoir partir.
Ces travailleurs ont exprimé leur mécontentement mardi matin à la devanture du ministère des Mines. Ils affirment qu'aucun d'entre eux n'a reçu une indemnité quelconque. Ils ne sont pour l'instant qu'à des propositions.
Nous sommes à Niamey depuis 3 mois. Et ils ont prévu de faire le plan social tout entier avec 3 millions d'euros. Mais réellement, ce que nous allons empocher, ça ne fait même pas les 2 millions d'euros. Et c'est 5 mois en guise de prime de départ. 5 mois de salaire pour chacun. Alors que tu as consenti tous ces sacrifices. On a abandonné nos projets d'avenir.
Le syndicat des travailleurs des mines était aux côtés de ces licenciés et il promet de mener le combat pour les faire entrer dans leurs droits. Mamadou Ousmane, membre du bureau exécutif du syndicat.
De par les accords de partenariat Areva-Niger en date du 26 mai 2014, ces licenciements collectifs du personnel d'Imouraren ne sont ni plus ni moins que des licenciements pour des raisons stratégiques et politiques. Le plan social proposé aux agents licenciés d'Imouraren est dérisoire vu le capital de la société et les préjudices subis par les travailleurs nigériens. L'État du Niger et Areva ont tous les deux une responsabilité sociale dans la gestion de ce dossier. Par conséquent, nous réclamons des indemnités et des mesures d'accompagnement assez confortables en réparation de tous les préjudices que nous a fait subir, et ce, dans les plus brefs délais.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Les Camerounais déplacés par les incursions de la secte Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun disent qu'ils vivent dans des conditions désespérées, passant parfois plusieurs jours sans nourriture, sans eau et sans médicaments. Pour eux, le gouvernement camerounais et les agences de l'ONU ignorent leurs besoins et s'occupent uniquement des réfugiés nigérians. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à Moura, dans l'extrême nord du Cameroun. Bagassi Koura nous lit son reportage.
Chant des écoliers déplacés ici dans une école publique de Moura, à environ 25 km de la frontière nigériane, leur maîtresse Alice Feyou dit que les enfants étudient dans des conditions très difficiles.
Cette classe est surchargée, comme vous pouvez le voir. Je ne peux que faire avec. Il n'y a même pas moyen de se déplacer dans la classe, mais j'essaye de mon mieux. Il y a des maladies, vous avez la toux, la fièvre. Et comme la salle de classe est bondée, ils ont des plaies sur les jambes.
Lawan Détakone, directeur de l'école publique de Kolofata, non loin de Moura, reconnaît qu'il a du mal à s'occuper des enfants camerounais dans leur propre pays.
Ici, au campus, ils sont au moins 520. Il y a beaucoup de choses qui manquent concernant le WC. Le WC, le point d'eau, un seul point d'eau pour 500 élèves, ce n'est pas facile.
Il affirme que plus de 500 élèves dans son école ont une seule source d'eau potable et ils n'ont pas de latrine. Le gouvernement du Cameroun affirme qu'au moins 70 000 enfants d'âge scolaire et 100 000 personnes ont été déplacées par l'insurrection de Boko Haram. Fekoué Ngaha Joseph, chef du village d'Amang, près de Moura, dit avoir demandé aux bonnes âmes de prendre en charge les personnes déplacées arrivant dans son village.
Depuis 8 mois, église par église, mosquée par mosquée, on collecte un peu de 1 000, on se nourrit avec. On avait recensé 1692 dans ce village.
Moussa Ibrahim, ses 3 femmes et 9 enfants ont quitté Fotokol il y a 2 mois après une attaque des combattants de Boko Haram qui a fait au moins 500 morts. Il affirme que la nourriture qu'ils reçoivent du chef Fekoué Ngaha Joseph est largement insuffisante.
Si vraiment les autorités nous comprennent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il y a les enfants qui ne trouvent pas à manger. Souvent, nous les grands, on n'arrive pas à manger. On donne aux enfants, nous on ne mange pas. On boit la bouillie sans sucre. Souvent, les femmes préparent la sauce. La sauce est déjà préparée, il fait descendre ça sur le feu. Mais ils ajoutent l'eau. Les gars, on peut manger ça. On ne peut même pas manger.
Le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Joseph Mbandam, déplore que son pays se concentre beaucoup plus sur la lutte contre Boko Haram que sur la prise en charge des déplacés internes.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Niger. Face à la menace Boko Haram et l'insécurité alimentaire, comment va ce pays dirigé depuis 4 ans par Mahamadou Issoufou ? Nous en parlerons à l'occasion d'une interview que nous a accordée le président nigérien. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la Caroline du Sud, le département américain de la justice et le FBI ont chacun de leur côté ouvert une enquête après l'arrestation de l'inculpation d'un policier blanc pour meurtre. Une vidéo montre le policier tirer à plusieurs reprises sur un homme noir non armé. Lionel Gaïma.
Walter Scott, qui était âgé de 50 ans, a été abattu samedi dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, après une altercation avec le policier Michael Slager. À un contrôle routier, l'un des feux de son véhicule ne fonctionnant plus. Une vidéo prise par un passant montre le policier tirer plusieurs fois sur Scott alors que ce dernier s'enfuyait. Quand il s'est effondré, Slager s'est dirigé vers lui pour lui passer les menottes. Selon la version initiale de faits, le policier avait soutenu n'avoir ouvert le feu qu'après que Scott ait arraché son pistolet paralysant pendant une altercation. Je peux vous dire que, du fait de la vidéo et de la mauvaise décision prise par notre agent de police, il sera inculpé de meurtre. C'est l'avocat de la famille Chris Stewart qui a remis l'enregistrement vidéo au New York Times qui l'a posté sur son site. Alors que nous regardions les informations, lorsque le maire a annoncé que le policier sera inculpé de meurtre, tout le monde dans la maison a pleuré et on s'est embrassé. Cela a apporté un petit soulagement et la joie que le chemin vers la justice vient de s'ouvrir et que, pour la première fois depuis longtemps, un policier va être inculpé lorsque pareille chose a lieu. Avec l'inculpation du policier Slager, l'espoir est grand que justice sera rendue, a dit de son côté Anthony Scott, frère de la victime.
We can't get my brother back.
Nous ne pouvons pas ramener mon frère à la vie et ma famille est profondément endeuillée, mais à travers ce processus, la justice est en marche. Et je ne veux pas croire que tous les policiers sont mauvais, mais il y en a qui sont mauvais et je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit abattu comme mon frère l'a été. La direction d'investigation criminelle de l'État de Caroline du Sud a ouvert une enquête, tout comme le ministère américain de la Justice et le FBI, la police fédérale. Plusieurs récentes affaires dans lesquelles les policiers avaient abattu les Noirs non armés, notamment Ferguson dans le Missouri, Cleveland dans l'Ohio et dans la ville de New York, avaient donné lieu au plan national à des manifestations massives dénonçant la violence policière contre les minorités.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
En République centrafricaine, le tribunal correctionnel de Bangui a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat pour le viol d'une mineure de 16 ans le 25 janvier dernier.
Le Rwanda s'est félicité de la déclassification par Paris des archives de la présidence française sur le Rwanda de 1990 à 1995. Sans rester toutefois prudent sur la portée de la décision.
À N'Djamena, au Tchad, les enseignants du primaire et du secondaire ont déclenché une grève pour dénoncer les retards de paiement et de leur salaire. Ils n'ont pas travaillé depuis hier mardi.
L'Union européenne a de nouveau approuvé des sanctions contre une banque et 32 sociétés d'expédition iraniennes, environ 3 mois après le rejet de telles mesures par un tribunal européen.
Washington accélère des livraisons d'armes à des alliés du Golfe en appui à la campagne menée par l'Arabie saoudite contre les Houthis pro-iraniens au Yémen et un jury dans l'état du Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis, a rendu un verdict de culpabilité contre Johar Sarnaev, l'unique accusé dans le double attentat du 15 avril 2013 à Boston. Il encourt la peine de mort. Voilà, à la production ce soir, c'était Lionel Gaïma, assisté de notre bon ami Santos. Thank you, sir.
Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Ciao.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.